Et dans l'actualité des idées aujourd'hui, comment habiter le monde? On en parle avec notre invitée, la philosophe des sciences belge, professeure à l'université de Liège, Vinciane Després. Toujours sur la piste animale, elle est allée à la rencontre des ornithologues pour comprendre ce que nous avons à apprendre des oiseaux. Un ensemble de pensées, réflexions réunies dans un livre, Habiter en oiseaux, chez Actes Sud, dans la collection Monde Sauvage. Une manière décalée de travailler et d'observer qu'elle pratique depuis longtemps. Elle observe les idées des ornithologues, les écoute pensées pour reprendre la jolie formule de son post-facier, le biologiste Stéphane Durand, à rebours d'une science pressée d'édicter de grandes lois universelles, comme en physique ou en chimie, et de conclure trop vite que la nature n'est qu'une jungle où règne la loi du plus fort. Bonjour Vinciane Després.
Bonjour.
Vous pratiquez, selon Stéphane Durand, une écologie des idées. C'est une belle formule qui dit peut-être quelque chose de votre méthode, de votre démarche, de votre approche des sujets, que l'on retrouve ici sous la forme d'accords et de contrepoints. Comment vous la définiriez, votre écologie?
Alors, si je devais définir l'écologie des idées, à propos des oiseaux en tout cas, c'est le fait d'assister et d'honorer la manière dont les idées viennent aux ornithologues. Alors, si on parle d'écologie des idées, c'est-à-dire on va assister à des idées qui sont, d'une certaine manière, qui vont émerger, mais qui vont émerger dans une niche écologique, en quelque sorte. Qu'est-ce qui fait qu'une idée peut, à un moment donné, sortir? Contre quoi elle va s'opposer? Qu'est-ce qui va la nourrir? Et qu'est-ce qui va lui permettre, d'une certaine manière, de nourrir d'autres scientifiques qui vont reprendre cette idée et en faire quelque chose d'intéressant? Alors, par exemple, je peux prendre juste un exemple.
S'il vous plaît, parce que vous imaginez bien que pour nous, ça reste très abstrait. Ouais, d'imaginer un ornithologue penser, ouais, et de voir comment vous captez ces idées.
Alors, mettons, par exemple, il y a toutes les théories sur, donc, moi, le travail que j'ai fait, c'est donc d'observer comment les ornithologues ont découvert et ont rendu intéressant la question du territoire chez les oiseaux. Et puis donc c'était une question. Bon, le fait que des oiseaux aient des territoires, c'était quelque chose qu'on savait déjà. On avait observé. Il y avait même un adage qui disait jamais vous ne trouverez de rossignol dans le même arbre. Mais ça n'a été étudié scientifiquement qu'à partir du fin 19e et surtout début du 20e. Et puis là, il y a une foule d'ornithologues qui vont s'intéresser à cette question et qui vont commencer à comprendre. Mais pourquoi est-ce que les oiseaux font un territoire? Comment est-ce qu'ils le font? Qu'est-ce que c'est ces disputes incessantes aux frontières, etc. Donc, et on va observer de plus en plus de théories qui vont venir s'ajouter pour essayer de comprendre. Et ce sont des théories qui vont venir s'ajouter non seulement parce qu'on complexifiait le problème, mais parce qu'ils se sont rendus compte que tous les oiseaux n'avaient pas les mêmes problèmes et qu'on ne pouvait pas parler du rouge-gorge de la même manière dont on parlait du bruyant des roseaux ou de l'alouette des champs. Et que donc, en fait, c'est pas seulement des théories qui vont s'ajouter, ce sont des manières de faire territoire. Une alouette des champs ne fait pas un même territoire, nécessairement, qu'un rouge-gorge. Elle a d'autres préoccupations, il y a d'autres enjeux. Et puis, par exemple, à un moment donné, on voit, enfin, qu'est-ce qui définit le territoire? C'est, on va dire, la définition qui est adoptée par les ornithologues, c'est n'importe quel lieu défendu. Oui. Défendu comment? Oh, alors, il y a des conflits aux frontières, il y a plein de disputes, c'est des bagarres, c'est comme ça d'ailleurs que ça a été repéré. Et puis à un moment, il y a des ornithologues qui vont dire, et ça, c'est là l'écologie des idées, là où on la voit vraiment, je veux dire, pouvoir opérer. Des ornithologues qui vont dire, oui, vous savez, ces bagarres, il n'y a pas beaucoup de blessés. C'est surtout de la frime. Ça crie, ça danse, ça monte des couleurs, ça chante à tue-tête. Et puis, vous avez remarqué que chez de très, très nombreux oiseaux, il y a beau avoir plein de bagarres aux frontières, les frontières, elles ne bougent pas. Donc ça veut dire que c'est des bagarres, elles n'ont pas de résultat. Pourquoi est-ce qu'un oiseau va-t-il en embêter un autre si de toute façon il ne va rien y gagner? Et même s'il ne le sait pas au début, après quelques expériences, ils ne sont quand même pas idiots, il va finir par apprendre que ça ne sert à rien. Donc, ces conflits, c'est autre chose. C'est peut-être pas des bagarres, c'est peut-être... Et une fois que les ornithologues commencent à dire ce genre de choses, ils se disent, et quel pourrait être l'intérêt alors de se rencontrer aux frontières et de faire tous ces simulacres? Et si, par exemple, c'était des exhibitions du bluff, une manière d'entrer en relation avec les autres sur le mode à la fois du voisinage et de l'amitié et de la rivalité. On se connaît bien, on fréquente les mêmes frontières puisqu'on est voisins. Et là, vous avez une vraie écologie des idées. Ça veut dire que vous pouvez observer qu'une fois qu'ils laissent tomber la question de l'agressivité, les ornithologues, une fois qu'ils laissent tomber la question de la compétition, qu'ils disent, bon, mais c'est peut-être pas ça l'enjeu du truc, puisque de toute façon, ça sert pas grand-chose, ces conflits-là. En tout cas, c'est pas très productif. Une fois qu'ils acceptent de laisser tomber des idées qui sont parfois des idées qui viennent un peu trop souvent dans la tête des scientifiques, hein, il y a de la compétition, la sélection naturelle a quand même joué là-dessus, il y a de l'agressivité, etc. Et une fois qu'ils disent, mais peut-être que c'est pas ça, on voit émerger des hypothèses beaucoup plus riches et beaucoup plus intéressantes. Et c'est ça que j'appellerais peut-être avec Stéphane Durand, une écologie des idées, c'est-à-dire comment des idées naissent, comment elles nourrissent d'autres idées et comment le monde se complexifie grâce à ces idées bien plus nourries.
Et vous, dans cet écosystème, vous, la philosophe, vous arrivez comment? Vous vous placez où? C'est-à-dire que vous les entendez, vous les regardez formuler tous ces « et si ». Est-ce que vous avez envie de prendre parti? Est-ce que vous avez envie d'apporter votre pierre aussi à l'édifice avec votre propre « et si » ou est-ce que vous êtes là plutôt quelque part pour faire un peu la synthèse?
Alors, mais « et si », je les propose, mais c'est toujours les suivants. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de nouveau « et si ». Généralement, j'essaye de voir, tiens, quelles sont les hypothèses qui sont les plus intéressantes. Et ça, c'est de nouveau l'écologie des idées. Une hypothèse intéressante, vous le voyez tout de suite, elle permet d'observer plus de choses, elle rend les animaux plus intéressants, c'est plus compliqué, on se rend compte qu'il y a plus de diversité. Et moi, quand je vois une hypothèse qui me semble être féconde de ce point de vue-là, je la prends et parfois je la tire un tout petit peu plus loin en disant, mais tout compte fait, et si on disait ça? Mais ça va jamais beaucoup plus loin. C'est un projet très modeste, en fait, que j'avais. Je trouvais les ornithologues tellement passionnants que j'ai pas eu besoin de travailler beaucoup, à part simplement bien décrire ce qu'ils faisaient et essayer de comprendre pourquoi eux-mêmes décrivaient la manière dont ils le faisaient.
Alors ça, c'est pas un processus nouveau, une démarche nouvelle pour vous, Vinciane Després. Déjà, dans les années 90, vous rencontrez le chercheur ornithologue israélien Amos Sahavi. Vous êtes attiré par ses lectures et vous le suivez sur ses recherches sur le cratérope écaillé, qui est une petite espèce, une espèce de passereau, c'est ça,
ça c'est le passereau d'Arabie.
Voilà. Et vous allez en faire un livre, La danse, sur cette danse qui paraîtra en 96. Ça a été vos premiers pas. Mais est-ce qu'on peut dire que vous êtes même carrément resté un tout petit peu perché depuis que vous avez entendu, vous, enfant, le chant d'un merle à votre fenêtre?
Alors, le chant d'un merle, c'était pour moi une expérience relativement bouleversante dans la mesure où j'ai réalisé à quel point ce chant était compliqué. Et en même temps, ça c'était d'un point de vue intellectuel, c'est-à-dire que si vous écoutez un chant d'un merle, vous allez remarquer très vite que la fin de chaque séquence est différente de la séquence précédente. Donc il va répéter les mêmes notes et puis une petite invention. Et une petite invention qui est adressée. Et donc, moi, ça m'avait déjà cognitivement bouleversée. Je veux dire, j'étais pleine d'admiration. Puis c'était beau, c'était magnifique. Et puis, il n'y avait pas que ça. Il y avait le fait que j'étais émue parce que, en fait, je me souviens quand j'ai entendu ce merle, c'est un peu plus tard que l'enfance. Hein. Quand j'ai entendu ce merle, j'ai pensé à un truc un peu idiot, mais ça m'a traversé l'esprit. Je me suis dit, bon Dieu, je crois que ce sont les merles qui ont inventé l'importance. Et tellement je sentais que quelque chose importait. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que c'est Baptiste Morisot qui me l'a soufflé. Ce qui m'est arrivé, disait-il, affectivement, de sentir, d'être traversé, bouleversé, ému par le fait que quelque chose importe à un autre être, et peut-être le fait qu'il y a un fond ancestral commun entre les merles et nous. Mais très, très lointain, mais peut-être pas très large comme fond, mais suffisant pour que quand quelque chose importe à un être qui est pourtant très différent de moi, je puisse le ressentir aussi sans du tout savoir de quoi il s'agit, juste savoir il y a quelque chose qui importe.
L'oiseau chantait, mais jamais chant en même temps ne m'a semblé si proche de la parole. Ce sont des phrases, on peut les reconnaître. Elles m'accrochent d'ailleurs l'oreille exactement là où vont toucher les mots du langage. Jamais chant en même temps n'en aura été plus éloigné dans cet effort tenu par une exigence de non-répétition. C'est une parole, mais en tension de beauté et dont chaque mot importe. On les écoute chanter ? Il y a 3 ans, vous participez, Vinciane Després, à la rédaction du catalogue de l'exposition Le Grand Orchestre des Animaux, inspiré de l'œuvre du bioacousticien musicien américain Bernie Cross. On en entend là un extrait, c'était pour la Fondation Cartier. On a commencé à évoquer le chant des oiseaux comme langage. Et c'est une des particularités que vous soulignez dans Habiter en oiseau, Vinciane Després, et dans l'ensemble de vos travaux, c'est que si nous sommes des animaux qui avons l'habitude de nous reposer sur nos yeux, sur notre vue, les oiseaux sont des animaux sonores. Avec leur chant, ils tissent ou définissent, tracent un territoire bien à eux.
Alors c'est une idée qui demande simplement qu'on rassemble quelques intuitions, une intuition de von Uxküll, de Jacob von Uxküll, qui est quand même le biologiste qui a élaboré une théorie passionnante selon laquelle les animaux vivent dans des mondes vécus, c'est-à-dire des mondes sensoriellement différents les uns des autres, selon leur équipement sensoriel, mais aussi des mondes vécus dans la mesure où ce sont des mondes où les choses n'existent que si elles ont une signification. Et von Uxküll, par exemple, prenait un exemple très joli en disant, mais par exemple, pourquoi est-ce que les petits oiseaux vont souvent se nicher dans le même arbre que leur prédateur, que leur oiseau prédateur? Et il s'était dit, mais tout compte fait, c'est pas un mauvais choix parce qu'on remarque qu'ils sont très peu attaqués par le prédateur. Il avait fait l'hypothèse qu'il n'est pas impossible que le prédateur, en fait, considère que tout son territoire, l'arbre par exemple dans lequel il vit, c'est non seulement chez lui, mais c'est une extension de son corps propre. Et ça, c'était une merveilleuse idée de von Uxküll, de penser que le territoire, c'est peut-être une extension de son propre corps. Ça porte sa propre odeur, et donc les petits oiseaux font partie du corps du prédateur. Quel meilleur moyen de se cacher, c'est encore mieux que la lettre volée. Et puis, une autre intuition, qui est celle de Thomas Saraceno, l'artiste qui travaille avec des araignées. Et se dire, mais une toile d'araignée, qu'est-ce que c'est si ce n'est une extension du corps de l'araignée dans l'espace et une extension sensible, puisque la moindre vibration, l'araignée va le sentir dans son corps. Et puis vous ajoutez toutes ces intuitions, vous ajoutez, tiens, mais mon bras, je peux dire qu'il est mien, et en même temps qu'il fait partie de mon corps, c'est moi et à la fois mien. Et vous ajoutez toutes ces intuitions, et puis vous observez comment certains mammifères, non seulement marquent le territoire, mais font une chose assez étonnante, se marquent par le territoire, c'est-à-dire vont se rouler dans la terre, dans l'humus, vont se frotter aux écorces. Et peut-être qu'ils s'imprègnent de la propre odeur du territoire. Et donc, toutes ces intuitions, vous les mettez ensemble, et puis vous vous dites, mais est-ce que finalement un territoire, est-ce que ce ne serait pas une extension de soi? Plutôt qu'être un sien au sens de « ça m'appartient », ça devient une propriété de l'être, mais non plus au sens de propriété comme propriété privée, mais c'est moi. Et une fois qu'on met ça ensemble, on se dit, oui, mais les oiseaux, ils marquent très peu, c'est par le chant qu'ils marquent. Et on peut commencer à s'imaginer que peut-être l'oiseau en chantant, d'une certaine manière, tuile en quelque sorte, crée. Alors Deleuze et Guattari, dans le livre « Mille plateaux », disaient qu'en chantant, l'oiseau crée un mur de son, un mur de briques sonores. Et je me suis dit, mais c'est peut-être pas tant un mur, même si je peux pas leur donner tort, parce qu'un mur ferait référence plutôt à quelque chose qui ferme, ce serait plutôt une espèce de tuilage, c'est-à-dire créer une étendue qui serait un territoire chanté, et ça les ornithologues en parlent, et c'est très joli, de créer un territoire chanté, c'est-à-dire que le chant, d'une certaine manière, recouvre un espace, mais de manière quasi matérielle, et étend le corps de l'oiseau dans l'espace par son propre chant.
En entendant ou en écoutant à l'instant cette chanson à plumes composée par Bernie Krauss avec ses oiseaux qui n'étaient pas tous ou des merles, ou il n'y avait même peut-être aucun d'ailleurs, vous l'évoquiez, on a quand même tout de suite tendance à fermer les yeux pour être vraiment à l'écoute. Et c'est intéressant de se demander si notre monde a complètement perdu ses oreilles ou si on peut encore continuer à affiner notre oui, cette sensibilité, ce sens-là. Et si à tendre l'oreille, on vivrait, on habiterait ce monde autrement. Ça nous amène à ce mot de Donna Haraway, dont vous avez, vous, préfacé l'édition française du Manifeste des espèces de compagnie, cette époque, cette ère du phonocène. Quel sens est-ce qu'on aurait, à vos yeux, à vos oreilles, Vinciane Després, à placer notre époque sous le signe du phonocène?
Alors, j'essaye de prolonger ce que Donna Haraway proposait, parce qu'elle ne va pas plus loin, elle n'explique pas vraiment ce que c'est que le phonocène, si ce n'est le fait qu'on entende les bruits de la Terre. Et je pense que c'est une façon de se réapproprier soi-même à la terre que d'en entendre les bruits. Mais je pense à une remarque, une très jolie remarque et un compte-rendu qu'avait fait mon doctorant Thibault de Meyer, qui m'aide vraiment très bien dans ses travaux, qui a une force spéculative absolument incroyable, et qui disait, il avait lu un livre de la philosophe Salomé Voegelin à propos de la puissance des sons. Et il disait, qu'est-ce que le son change dans notre rapport au monde? Et en fait, il disait, en fait, quand on est dans l'ordre du visuel, on est dans l'ordre de la certitude. D'ailleurs, il faut le voir pour le croire et des choses comme ça. Alors qu'avec un son, quand vous entendez un son, vous avez une énigme qui se crée. Vous ne savez pas nécessairement d'où il vient, vous ne savez pas qui l'a produit. Et il disait, le son vous pousse à aller voir plus loin. Il vous met en quête. Et il disait qu'il y avait une très grande différence, et c'est assez joli, entre la vérité visuelle et la vérité sonore. La vérité visuelle, disait-il, est une vérité référentielle. Je vois cette chose et je sais à quoi elle réfère. Donc on est dans l'ordre de la vérité où, d'une certaine manière, il y a une certitude qui va s'installer. Alors que si j'entends un oiseau chanter, il disait, on est dans l'ordre d'une vérité générative, c'est-à-dire une vérité qui doit se mettre en quête de plus de réel. Je ne sais pas où est cet oiseau, je ne sais pas qui il est. Peut-être que je le saurai parce que j'apprends à le reconnaître et tout. Et donc, d'une certaine manière, la vérité ou la quête de son est une quête de curiosité et qui respecte d'une certaine manière le fait qu'on ne sait pas tout et qu'on n'a pas accès à tout. Alors que le visuel nous donne une quelque sorte une espèce de primauté d'accès. On est presque maître en la demeure dans le visuel, alors que dans le sonore, on doit rester des apprentis.
Et on se sent un peu démuni, parce que si on ferme les yeux, c'est pour essayer de comprendre et essayer de leur voler leur secret. Si je reprends le titre de l'un de vos précédents ouvrages, que nous diraient les oiseaux si on leur posait les bonnes questions? Alors c'était pour les animaux, mais là on a envie de poser la question pour les oiseaux. Qu'est-ce qu'ils nous diraient si on leur posait les bonnes questions? Qu'est-ce qu'ils ont, les oiseaux, à nous apprendre? Comment ils peuvent nous éclairer, d'après vous, aujourd'hui, sur notre manière d'habiter le monde?
Alors c'est là où j'ai été d'une très grande prudence par rapport à ce qu'ils pouvaient nous apprendre, dans la mesure où j'ai remarqué que plusieurs scientifiques ou philosophes ont écrit des choses à propos du territoire chez les animaux en disant « Avec les animaux, on va retrouver les raisons de notre instinct territorial, voire comprendre la naissance des nations, etc., etc., de la propriété privée et tout. » Et généralement, ce type de proposition est de très mauvais goût et est d'un anachronisme absolument épouvantable, puisqu'on prétend demander aux animaux de répondre de quelque chose qui s'est forgé au cours du temps, et particulièrement au XVIIe siècle, notamment puisque nos conceptions de la propriété privée des territoires, sont majoritairement, se sont forgées et ont été modifiées au XVIIe siècle. Donc demander aux animaux de répondre au nom des gens du XVIIe siècle, c'est un peu de mauvais goût. Deuxièmement, c'est vraiment, je vais dire, leur demander de nous apprendre des choses. À quel oiseau on va demander? Moi, j'ai appris ça dans mes recherches et justement dans ce précédent livre. C'est que vous pouvez obtenir des tas d'analogies avec les animaux. Vous pouvez montrer que tel comportement est dans la nature ou tel comportement, mais il faut s'adresser à la bonne espèce.
Ils n'auront jamais la même réponse.
Voilà, ils n'auront pas la même. Alors, les oiseaux sont absolument extraordinaires de ce point de vue-là, parce qu'ils appartiennent justement pas à une espèce. On dit les oiseaux, mais une alouette des champs n'est pas un rouge-gorge, et n'est pas un merle, et n'est pas un cratérope écaillé. Donc si déjà passer de l'un à l'autre est si difficile, passer à l'humain, c'est quand même un saut de type grand écart. En revanche, donc, mais je n'ai pas envie non plus de dire les analogies sont mauvaises, parce que les analogies, on a envie de les faire, alors pourquoi est-ce que j'irais dire non? Moi, j'essaye de pas trop en faire. Et pourquoi est-ce que j'essaye de pas trop en faire? D'une part, parce que c'est autre chose que j'attends des oiseaux. Et j'attends d'eux de nous ouvrir l'imagination. C'est-à-dire de pouvoir multiplier, je reprends une phrase de l'anthropologue Viveros de Castro, de multiplier les mondes, c'est-à-dire de multiplier les manières d'habiter. Et je pense que notre imagination, elle pourrait s'en sortir, je pense, plus flexible, peut-être plus mieux nourrie, si en lieu et place de ces quelques pauvres conceptions du territoire que nous avons et de la propriété privée qui le marque tellement, cette conception, on avait des conceptions beaucoup plus larges, beaucoup plus diverses, beaucoup plus... Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que, d'une certaine manière, moi, je ne m'autorisais pas trop d'analogies parce que je les trouve très périlleuses, mais aussi parce que je voulais pas faire quelque chose qui est le sale coup qu'on fait au lecteur, c'est-à-dire de faire tout le travail d'imagination à sa place. S'il y avait quelque chose, il me semble qu'un livre peut produire comme bonheur et à la fois comme travail intéressant pour un lecteur, c'est de laisser le lecteur repartir avec et lui-même nourrir ce livre avec sa propre imagination en faisant lui-même ses analogies. Et là, libre, je vais dire, ça, c'est le travail du lecteur et je pense que ça fait partie, je pense, du boulot en tout cas tel que je le conçois, de mon boulot de philosophe, c'est de mettre les autres après moi, au même travail jubilatoire de la pensée que ce que j'ai pu recevoir de ceux que je lisais.
Voilà, alors si habiter en oiseau, pour reprendre le titre de votre livre, Vinciane Després, est une philosophie de vie, c'est une philosophie de vie à clé. À nous de chercher les clés.
C'est ça.
Et de comprendre quelle porte ouvrir avec.
Oui.
Vous êtes notre invité jusqu'à 13h30, France Culture pour l'heure. Il est 13h15.
France Culture. La grande table. Olivia Gesbert.
Vinciane Després, vous parliez de multiplier les mondes. On peut se pencher sur ce que vos confrères ont fait avant vous, hein, sur les relations hommes-animaux dans le regard des philosophes. C'est un sujet d'étude qui n'est pas nouveau pour beaucoup et vous le racontez. Vous parlez notamment de ce que Deleuze et Guattari vous ont offert. Et vous dites, c'est d'apprendre à suivre les déterritorialisations possibles, à sortir des territoires pour mieux y revenir. Avec cette idée de monde associé qui nous fait penser à ce que vous évoquez, cette idée de multiplier les mondes, d'apprendre à démultiplier ces territoires. Hein. Ça, c'est peut-être la première chose.
Alors, c'est la première chose et c'est là où le territoire est un sujet très particulier et très intéressant. Et je l'ai découvert en cheminant notamment avec les philosophes et les ornithologues. C'est que le territoire, c'est un lieu, c'est une situation. Le territoire, ça peut être un lieu, mais c'est pas nécessairement, le mot lieu est un peu trop étroit, c'est plutôt une situation, parce qu'on est aussi dans le temps, on est dans l'affectif, dans un lien affectif à un lieu particulier. C'est une situation où tout se rejoue. Je veux dire par là, tout se déjoue et tout se rejoue. Quand vous parlez de déterritorialisation, et je bute moi-même, quand on parle de déterritorialisation, j'ai réussi, on se rend compte que c'est ça, c'est on défait des types de liens, des types identitaires, des types de subjectivité, des types de façon d'être, des types de manière d'être, voilà ce que j'essaye de dire, pour les refaire autrement. Un de mes amis disait, finalement, le plus bel exemple, le plus concret de déterritorialisation que nous connaissons, c'est le carnaval. Mettez un masque, vous vous déterritorialisez. Et pourquoi est-ce que mettre un masque vous déterritorialise? Parce que vous allez, d'une certaine manière, rejouer autre chose, vous allez déjouer ce que vous êtes, déjouer dans le sens de le défaire et rejouer une autre manière d'être. Et puis je reprends de nouveau Thibaut de Meyer, mon doctorant qui faisait de jolies propositions sur les masques. Il disait finalement qu'est-ce que c'est qu'un masque? Ce procédé de déterritorialisation par lequel vous déjouez ce que vous êtes pour vous rejouer dans un autre régime, dans une autre manière d'être. Un masque, c'est un activateur de puissance. Portez un masque, vous verrez, vous n'êtes plus la même personne. Portez un masque, vous allez activer chez vous certaines puissances. Vous ferez peut-être des choses que vous ne seriez pas capable de faire en temps usuel, quotidien, banal, normal. Alors ça, c'est déjà très important. Et puis, une fois donc, et je pense que tout est dit à propos du territoire, tout n'est pas dit, non bien sûr tout n'est pas dit, mais quelque chose est dit du territoire, c'est un lieu où par exemple des tas de conduites qui sont des conduites qui vont utiliser les gestes et les formes d'autres régimes, par exemple les conduites agressives, vont être rejouées pour devenir des conduites artistiques. Comme dans le jeu, d'ailleurs, c'est exactement le même processus que le jeu. On est dans le registre du spectaculaire, un oiseau qui se met à chanter à tue-tête et à faire une chorégraphie absolument extravagante devant un autre. Au moment d'une rencontre territoriale, vous vous rendez compte qu'en fait, tout ce qui est, tous les gestes utilisés, ce sont des gestes qui sont issus du conflit, issus de l'agressivité, mais ils sont tout à fait rejoués autrement pour devenir un geste avec une intention avant tout spectaculaire. Et ça, c'est aussi déterritorialiser, c'est-à-dire défaire des manières dont les choses sont prises, défaire de la manière dont les gestes sont pris, pour les rejouer et en faire tout à fait autre chose. Et par exemple, et ça c'est Deleuze et Guattari qui le disent, aussi bien qu'Étienne Souriau, c'est pour en faire de l'art. Pour eux, l'art naît aussi dans le territoire.
Alors sur la question des relations hommes-animaux, sur ce grand sujet d'étude, vous dites que là, vous vous sentez en porte-à-faux avec les essais, les impressions de Deleuze et Guattari. Vous êtes assez critique avec eux. Méfiance d'emblée à l'égard de ces deux philosophes qui traitaient, selon vous, avec mépris les animaux familiers. Vous vous sentez plus proche d'un Derrida. Derrida avec son chat. Devant le chat qui me regarde nu, aurais-je honte comme une bête qui n'a plus le sens de sa nudité? Ou au contraire, honte comme un homme qui garde le sens de la nudité, écrivait-il en introduction de son L'animal dont je suis. Jacques Derrida et la question animale, on l'écoute.
Il n'y a pas de raison qu'on mette sous la même catégorie de l'animal le singe, l'abeille, le serpent, le chien, le cheval. anthropoïdes ou des microbes. Hein. Ce sont des types d'organisation de la vie radicalement différents. Et déjà, le geste qui consiste à dire l'animal et de ranger dans cette catégorie aussi bien le chimpanzé que la fourmi est un geste de répression violente, d'enfermement violent de la part de l'homme. Hein. Tous ces vivants ne sont pas des hommes, donc on les met dans la même catégorie. C'est un geste stupide d'abord, théoriquement ridicule. Et puis, c'est un geste qui fait partie de la violence humaine en général à l'égard des animaux, qui conduit aux abattoirs, aux traitements industriels de la viande à consommer. Toutes les violences contre l'animal sont en germe dans cette simplification conceptuelle qui consiste à dire l'animal en général.
Voilà, Derrida avait pour vous une pensée articulée, une manière de penser les animaux aussi indépendamment. C'est une bonne manière de commencer par les respecter.
Ah oui, je crois que c'est la condition élémentaire du respect. Je reprendrai d'ailleurs la définition que donne Haraway, donner du respect. Je trouve que c'est très joli. Elle rappelait l'étymologie de respect, ça veut dire regarder deux fois, respectare. Et ça veut dire aussi rendre le regard. Et je pense que c'est ça que Derrida a commencé par faire. C'est-à-dire à penser comment rendre le regard et à penser que les animaux nous regardent. Et que c'est ça qu'il faudrait apprendre à penser. Et je trouve que c'est très juste ce qu'il dit. Et il a fallu tellement longtemps pour qu'on y arrive et pour qu'on l'entende. Je veux dire, il y avait bien sûr quelques prédécesseurs, mais c'était tellement difficile. Je me souviens, il y a 20-30 ans d'ici, l'idée même que de parler d'autre chose que de l'animalité ou même de l'animal était aberrante. On ne pouvait pas entrer ni en philosophie, ni en anthropologie, ni en sciences sociales en parlant d'animaux concrets. Et c'est ça que Derrida finalement a fait, c'est ouvrir cette voie-là. Mais je pense que Deleuze et Guattari l'ont fait aussi, parce que je veux dire, s'il y a bien quelque chose qui est commun aux deux, c'est de faire entrer les animaux concrets. Et il ne faut pas oublier que Deleuze et Guattari, malgré les reproches que je leur ai fait par rapport aux animaux familiers notamment, ils ont bien lu les éthologues. Ils sont bien nourris d'éthologie. Et c'est exactement d'ailleurs ce que Derrida reprochait aux philosophes. C'était de ne rien savoir et de parler sans savoir. Je me souviens d'une conférence que Derrida avait faite et quelqu'un lui dit « Mais enfin, vous vous souvenez quand même que Bergson a dit ceci ?» Et Derrida s'est fâché et il a dit c'est très bien de penser avec Bergson, mais on est quand même dans les années 90 et tout ce que les éthologistes ont fait depuis lors, ne pas le savoir, c'est vraiment... Et là, je reprends une expression qu'il avait eue dans d'autres contextes, c'est vraiment de la méconnaissance intéressée.
Alors sur le pour qui, pourquoi, c'est votre deuxième post-facier Baptiste Morisot qui écrit dans ce livre « Habiter en oiseau » chez Actes Sud. C'est bien un livre sur les oiseaux, d'abord parce que c'est un livre pour les oiseaux, non pas au sens militant, les oiseaux je suis pour certes, mais qui est contre, plutôt au sens où, quand on donne un présent, on dit « c'est pour toi » et pourtant ils ne savent pas lire. Jolie manière d'évoquer, de résumer peut-être le travail que vous avez mené ici avec les oiseaux et les ornithologues Vinciane Després dans Habiter en oiseau. Baptiste Morisot, qui à propos de la disparition de la faune sauvage, nous mettait en garde contre cette crise de la sensibilité dans laquelle nous sommes aujourd'hui. On l'écoute.
C'est ce qu'on peut appeler une sorte de crise de la sensibilité à l'égard de formes de vie sauvages auxquelles on ne sait plus s'affilier autrement que, par exemple, par des formes d'identification infantile. Il me semble qu'à cet égard, ce n'est pas du tout anodin que la faune sauvage aujourd'hui soit surreprésentée dans la littérature pour enfants. Je crois que ça dit plusieurs choses d'assez profondes et d'assez fascinantes. La première, c'est que les animaux sauvages entretiennent un rapport d'intimité et de constitution avec la psyché humaine, et notamment au moment du développement infantile. Ça a été bien montré par un philosophe qui s'appelle Paul Shepard. Mais le second aspect qui me semble un peu plus gênant dans cette affaire, c'est que je crois qu'une grande violence qu'on a produite à l'égard de l'animal, même si je ne crois pas que ça existe, l'animal en général, des animaux, c'est d'avoir infantilisé la question. C'est d'en avoir fait une question pour les enfants, ou une question exotique. Et il me semble que l'un des enjeux aujourd'hui, pas anodin, c'est de montrer que ces formes de vie-là ne sont pas simplement l'objet d'un intérêt infantile sous forme de peluche ou de fable, mais que ce sont des êtres qui appellent notre attention politique... je dirais, la plus sérieuse et la plus mature.
Voilà, on a trop infantilisé, dit-il, et pourtant parler aux adultes comme aux enfants, c'est aussi à ces deux interlocuteurs que vous cherchez, vous, à vous adresser, Vinciane Després. C'était le cas notamment dans votre précédent livre sorti chez Actes Sud, Le chez-soi des animaux, où vous racontiez aux enfants des histoires sur le rapport des animaux à leur habitat et à leur identité, pour comprendre quelles sont à la fois, que au-delà des ressemblances, au-delà de ce qui nous sépare et au-delà de ce qui nous semble nous rassembler, il y a peut-être un commun à réfléchir ensemble. Le livre de la jungle, vous le recommandez aux enfants aujourd'hui, Vinciane Després?
Ça, c'est une question à laquelle je ne m'attendais pas du tout. Et c'est très bien, voilà, vous me faites sortir de ma zone de confort. Alors, est-ce que je le recommanderais? Alors, si, je pense que je le recommanderais, mais avec en effet une lecture comme beaucoup de lectures accompagnées.
Voilà. Et vous diriez quoi à son sujet? Quel serait l'appareil critique, le SI qui irait avec?
Mais l'appareil critique, je ferais quand même par exemple attention au rapport de colonisation qui sont encore, au rapport de primitivisation, à la manière dont les animaux sont animés. Je ferai quand même attention à ça. Mais je pense que plus généralement, quand Baptiste dit que nous traitons les animaux, en effet, comme les enfants traitent les animaux, je pense que ça peut se comprendre aussi. C'est que le rapport avec les animaux, ça réactive quand même une fameuse part de notre enfance. Vous savez, moi, je suis allée un jour dans un lycée à propos de la sortie de quand on préparait le livre Habitant en oiseau, j'ai posé la question aux enfants en disant, moi, je suis philosophe et une question qui m'intéresse, c'est à partir de quel âge on pense que les animaux ne pensent pas. Et j'ai posé aux enfants en disant, voilà, je voudrais vous savoir à partir de quel âge, quand est-ce que cette tragédie arrive? Quand est-ce que cette tragédie nous rend tellement sourds à l'idée que les animaux nous parlent et puissent penser? Et c'est très intéressant, les enfants ont tout de suite compris ce que je voulais dire. Ils ont commencé à me raconter des histoires en disant que leur chien parlait et qu'il les comprenait, qu'il y avait, etc. Et c'était passionnant.
On va se quitter, Vinciane Després, avec quelques notes de The Law of the Jungle, la loi de la jungle. C'est l'un des titres phares de Jungle Book, un conte musical adapté du célèbre livre de la jungle de Kipling, mis en scène par Bob Wilson et Coco Rosie. Première représentation, ce sera dimanche au 13e Art, théâtre de la ville hors les murs. Ils sont associés dans le cadre du Festival d'automne à Paris, et c'est à voir et à écouter jusqu'au 8 novembre. C'est aussi pour les enfants, à partir de 8 ans, maintenant qu'ils ont quelques indications pour y aller raisonnablement. On écoute.
The jackal may follow the tiger, but step when the whiskers are grown. Remember,
the wolf is a hunter.
Go forth and get food on thy own. It's the law of the jungle. It's the law of the jungle. It's the law of the jungle.
Extrait de ce spectacle qui sera donc à voir au 3e Art à Paris. Voilà, et puis c'est pas tout, ce samedi, double représentation de notre Moby Dick à nous, un concert fiction France Culture avec l'Orchestre National de France d'après le roman d'Herman Melville à l'occasion du bicentenaire de sa naissance, librement adapté par Stéphane Michaka. Rendez-vous donc au Studio 104 avec vos enfants si vous le souhaitez, au Studio 104 de Radio France. Programme et réservation sur le site de la maison de la radio.fr. On pourra vous retrouver, Vinciane Després, à Paris ce soir. Ce sera une rencontre, lecture, signature et performance au Poinçon, avenue du Général Leclerc dans le 14e, à partir de 19h. Habiter en oiseau chez Actes Sud, merci beaucoup à vous.
Merci à
et
vous.
Un grand merci à toute l'équipe de La Grande Table.